Nous voulons repartir ce matin dans quelques considérations sur la Pentecôte, bien sûr, et nous devons remettre la Pentecôte, celle que nous vivons chaque année, 50 jours après Pâques, dans son contexte historique et dans son contexte biblique. Nous savons que déjà le chiffre 50 avait une certaine réalité, une certaine valeur, car lorsque Israël est sorti de l'Égypte, environ 50 jours plus tard, ils se sont retrouvés au pied du mont Sinaï et là, ils ont reçu le don des tables de la loi. Ils ont reçu le don de la parole et c'est pourquoi la Pentecôte était déjà une fête juive très connue qui s'appelait, pour certains qui le savent, Shavuot, une des grandes fêtes que Israël devait maintenir et qui était lié à une sainte convocation, il fallait que tout le peuple se rassemble à Pentecôte pour justement célébrer, dans ce qu'il disait aussi, la fête des semaines. Il devait célébrer et remercier pour le don de la parole. Est-ce que vous avez remercié cette semaine le Seigneur pour sa parole? Si vous ne savez plus comment remercier, comment prier, vous pouvez toujours dire merci pour la Bible que j'ai entre mes mains. Parce que si je l'ai entre mes mains aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui ont payé très cher pour qu'aujourd'hui je l'ai entre mes mains. Et c'est un miracle, ce n'est pas mon sujet ce matin, mais c'est un miracle que nous ayons cette parole qui nous revient du fond des âges, puisque les premiers textes ont été écrits par Moïse lui-même, et cela remonte à 1500 ans, environ 1450 ans avant Jésus-Christ. Vous avez un ouvrage tout à fait unique. Seigneur, merci pour le don de la loi, pour le don de la parole. C'est la première raison qu'Israël avait lors de cette fête de Pentecôte, de Shavuot, qui est aussi en même temps la fête des moissons. Car à Pâques, la fête, la grande fête juive, qui était la plus grande parmi les trois grandes fêtes juives, eh bien à Pâques, Pessah, eh bien on offrait, non seulement il y avait l'agneau et il y avait l'agneau pascal et le souvenir de la délivrance de l'Égypte, mais il y avait aussi les prémices, la première gerbe qui n'était pas encore vraiment mûre, mais la première gerbe de la moisson était offerte aussi à Dieu à ce moment-là, en signe de prémices. Cela veut dire toute la moisson va bientôt arriver à maturité, mais nous t'offrons déjà les prémices, Seigneur, en attendant le reste. C'était ainsi que Jésus, en ressuscitant d'entre les morts, à Pâques, bien sûr, il est mort et il est ressuscité en 3 jours d'intervalle, il est ressuscité, eh bien, Jésus était les prémices de ceux qui sont morts. C'est pourquoi, lorsque nous accompagnons des gens en fin de vie, nous regardons non pas ce qui se passe avec nos yeux terrestres, mais nous regardons les promesses, car Jésus est les prémices de ceux qui sont morts. Il est mort, il est ressuscité, ça veut dire que si je meurs, je vivrai pour toujours avec lui. Si vous croyez en Jésus, vous vivrez même si vous mourrez. Donc Jésus avait bien dit, je suis les prémices, et à Pâques, il y avait cette première gerbe. Ensuite, 50 jours plus tard, arrive donc Shavuot, la fête des semaines. Et là, la moisson est arrivée à maturité. C'est le temps que tous les ouvriers et tout le personnel agricole allaient sur les champs pour engranger la moisson et on apportait encore une fois la première gerbe bien mûre, bien dorée, on l'apportait au temple pour adorer Dieu et dire « Seigneur, maintenant c'est le moment de la moisson, merci pour la moisson ». C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est venu. C'est juste à ce moment-là, 50 jours après Pâques, que la Pentecôte, dans les disciples rassemblés dans la chambre haute, c'est là que le Saint-Esprit est descendu pour moissonner. Et depuis ce jour, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit n'a jamais arrêté de moissonner. Et si vous êtes là ce matin, c'est qu'il vous a déjà moissonné. Vous faites partie de cette gerbe qu'il tient dans ses bras et il vous a moissonné. Et vous lui appartenez pour être dans sa grange, dans son grenier. Et ce fruit qu'il porte dans ses bras, c'est son œuvre à lui, c'est son travail, c'est sa récompense. Alléluia, nous sommes la récompense du Seigneur. Nous sommes la récompense du Seigneur. Et voyez-vous, le Saint-Esprit n'est pas descendu ce jour-là dans le temple. Alors qu'Israël est rassemblé dans le temple, aux alentours du temple, le temple est plein à craquer. Ce jour de Shavuot, ce jour de la fête des semaines, ce jour de la moisson, le Saint-Esprit n'est pas venu juste là, il est venu ailleurs. Il est venu dans la chambre haute où 120 personnes étaient en train d'attendre la promesse de Jésus. Ils avaient fait confiance dans la promesse de Jésus et ils attendaient que sa promesse s'accomplisse. Si tu attends que la promesse s'accomplisse, le Saint-Esprit descendra juste au bon endroit. Dans ton cœur qui attend, qui a soif, qui sait attendre et qui s'ouvre à lui. C'est pourquoi je dis toujours, le Saint-Esprit agira, le Saint-Esprit interviendra, le Saint-Esprit descendra sur ceux qui ont un cœur ouvert, libéré et réceptif. Le Saint-Esprit moissonne et tant de personnes doivent encore faire partie de cette moisson. Le Saint-Esprit a choisi de descendre à Jérusalem. Était-ce, à votre avis, un lieu facile ou un lieu difficile? Un lieu de lumière ou un lieu de ténèbres? Un lieu d'ouverture ou un lieu plutôt fermé, bétonné? La parole de Dieu nous fait clairement comprendre que le Saint-Esprit est descendu dans une ville, religieuse certes, mais une ville qui avait, 50 jours auparavant, mis à mort le Sauveur du monde, où la foule a crié « Crucifie-le !» où ce procès complètement biaisé, faussé, mis à exécution par les Romains, bien sûr, mais en réalité, c'était les sacrificateurs qui dirigeaient cette ville d'une main de fer et qui faisaient peser une oppression religieuse et un légalisme terrible, épouvantable dans cette ville. C'est dans ce lieu religieusement fermé, dans ce lieu où la vie n'arrivait pas à éclore, c'est dans ce lieu-là que le Saint-Esprit vient. Et c'est dans ce lieu-là qu'il va moissonner 3000 âmes d'un coup. Frères et sœurs, ce que je veux dire par là, c'est que si le Saint-Esprit a été capable de moissonner 3000 âmes en un seul jour dans un lieu difficile, dans un lieu fermé, dans un lieu qui était opprimé par une religion de loi qui tuait et non pas l'Esprit qui vivifie, si le Saint-Esprit a réussi à faire une moisson et à donner au monde l'exemple d'une moisson extraordinaire, comme des prémices de temps extraordinaire qui allait venir, dans un lieu difficile, il peut descendre dans n'importe quelle ténèbre. Il peut venir dans des lieux obscurs. Ne dites jamais ce lieu est hermétique, il ne peut rien se passer. Rien n'est impossible à Dieu. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Le Saint-Esprit nous montre que s'il est venu à Jérusalem, c'est qu'il peut venir partout, même dans des coins les plus compliqués, les plus difficiles. Et pour faire partie de cette moisson, j'aimerais que nous pensions à trois thématiques, à trois points ce matin. Nous devons tout d'abord vivre dans l'attente et l'accueil du Saint-Esprit. Nous devons ensuite découvrir, remarquer, constater les actes et les œuvres du Saint-Esprit. Et ensuite, nous devons vivre dans le renouvellement du Saint-Esprit. Et c'est dans cette direction que j'aimerais vous conduire ce matin. Le premier texte, je ne vais pas le relire parce que nous l'avons lu, Nicolas l'a lu en introduction. Je vous le rappelle simplement, acte 1, 4. Il nous est dit que Jésus, avant de monter au ciel, il a recommandé aux gens, à ses disciples, auxquels il s'adresse, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Le mot « recommander » serait mieux traduit par « commander ». Il leur a donné un ordre précis. Vous devez attendre que le Père vous envoie la promesse. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il nous est dit que les disciples n'avaient pas du tout pensé à cela, mais qu'ils voulaient absolument voir le royaume d'Israël être reconstruit. Ils voulaient absolument attacher aux paroles prophétiques, ils étaient remplis de ces prophéties du royaume d'Ésaïe en particulier, de la gloire d'Israël à venir, et ils avaient hâte que maintenant, c'est le moment, Seigneur, rebâtis ton royaume, fais descendre ta gloire, que les promesses s'accomplissent, et que les ennemis soient chassés d'Israël, et que tu puisses vraiment faire ce que tu as prévu, et que, Seigneur, ça puisse maintenant se passer. C'est urgent, Seigneur. Et Jésus va dire, je sais que vous aspirez à ça. Je sais que c'est urgent pour vous. Mais pour moi, j'ai une autre urgence. Il faut d'abord que le royaume s'installe en vous, avant d'être installé en Israël. Le royaume de Dieu doit être installé en vous, et c'est pourquoi vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. C'est là votre vrai besoin. Vous avez besoin, non pas que la gloire soit en Israël, mais que la gloire de Dieu soit en vous. La plénitude soit en vous, la force soit en vous. La grâce de Dieu émane de vous. Le rayonnement d'une vie transformée passe par vous et que les gens puissent voir, mais Dieu est capable de changer, non pas un royaume, pour en mettre un autre à la place, mais il est capable de changer l'être humain que personne ne peut changer. On peut remplacer un royaume, un autre roi vient et le royaume change. Un autre empereur arrive et les données sont différentes. Mais qui peut changer un cœur humain? Le prophète va dire, comme un léopard ne peut pas enlever ses taches, tu ne peux pas changer ton cœur. Comme tu ne peux pas changer de couleur de peau, tu ne peux pas changer ton cœur. Mais moi, Dieu, je peux le faire. C'est pourquoi nous pouvons être transformés par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est de ça que Jésus parle. C'est à W. Tozer, un pasteur et auteur américain, qui dit ceci. « Avant d'être rempli du Saint-Esprit, vous devez d'abord être certain que vous en avez besoin. Vous devez être certain que vous en avez besoin. Que vous voulez être rempli. » Vous devez être certain que c'est pour vous. Vous devez être certain que c'est la volonté de Dieu pour vous et que cela fait partie de son plan global pour vous et que c'est inclus et compris dans l'œuvre de rédemption de Jésus. Cela nous a été acquis par le tout accompli à la croix. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être convaincus tout d'abord que cet ordre de Jésus, ce n'est pas juste quelque chose qu'il fallait attendre ces 10 jours pour que Pentecôte arrive et que le plan de Dieu s'accomplisse. Il faut que je ressente profondément, j'en ai besoin, moi. Alors que ce matin, vous puissiez vous poser cette première question. J'en ai besoin, Seigneur. C'est moi qui en ai besoin. C'est un besoin impératif ou impérieux. Car il nous faut la présence, la plénitude et la force, la vie intérieure du Saint-Esprit pour pouvoir vivre la vie chrétienne, vivre les lois de Dieu. Avoir les tendances de l'esprit, les affections de l'esprit, avoir les aspirations de l'esprit et produire les fruits de l'esprit, vivre dans les dons de l'esprit et l'onction du Saint-Esprit, il faut pour cela que le Saint-Esprit vive avec puissance au travers de nous. Sinon, nous sommes sans ressources, sans énergie et sans force, sans feu. La priorité de Jésus, dans ce premier point, doit être ma priorité. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La première chose, c'est avoir soif, c'est avoir une attente. C'est dire, Seigneur, c'est pour moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Pas seulement une soif intellectuelle ou une soif théologique de comprendre comment ça se passe, Seigneur. Et c'est bien de faire une étude biblique sur le baptême du Saint-Esprit. Je dirais, c'est même se donner les bonnes fondations et les bons fondements. C'est bien de le faire. Mais allez plus loin et devenez, après être un assidu, étudiant en lecture biblique, devenez ensuite comme un enfant qui vient dire « Papa, j'ai soif. Maintenant, donne, Seigneur. J'ai fait mes études, j'ai tout regardé, je comprends avec ma tête. Maintenant, Seigneur, il faut que ça descende dans mes entrailles, dans mon cœur. Papa, j'ai soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Et en toute simplicité, c'est parce que c'est en toute simplicité que le baptême du Saint-Esprit se reçoit. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? C'est en toute simplicité. Si on se complique les choses, j'ai toujours dit aux personnes, vous ne devez pas intellectualiser la chose. Vous ne devez pas, il ne faut pas que ça passe par l'intellect. Ça ne passe pas par votre tête. D'abord, on étudie, d'abord, on est convaincu, c'est la volonté. Ça passe par notre tête, oui. Mais ensuite, ça passe de l'Esprit de Dieu à mon esprit. C'est l'Esprit de Dieu vers mon esprit qui communique, ça passe pas par l'intelligence qui est court-circuitée. C'est de l'Esprit à l'Esprit, de l'Esprit de Dieu à l'Esprit humain que ça se passe et que je peux recevoir. Et dans la foi, je peux à ce moment-là commencer à exprimer, c'est pourquoi le parler en langue est une des manières d'exprimer cette foi et de laisser le Saint-Esprit clairement et audiblement couler comme un fleuve au travers de nous. C'est une des manifestations claires et physiques qui nous montre que nous sommes devenus partenaires avec le Saint-Esprit. C'est lui qui fait, mais c'est moi aussi qui fais. Ce n'est pas lui qui fait tout seul, il veut ma participation. Vous devez apprendre à devenir collaborateur ou partenaire, un mot qui est meilleur, un partenaire avec le Saint-Esprit, afin que vous puissiez dire, oui, c'est le Saint-Esprit et c'est moi en même temps. C'est l'Esprit de Dieu et c'est mon esprit en même temps. C'est ça la communion, nous sommes un. 1 + 1 = 1, nous sommes ensemble, nous sommes unis. L'Esprit de Dieu et mon esprit, nous sommes ensemble et nous vivons ainsi ces choses dans la foi. Donc, le point numéro 1, vivre dans la soif, dans l'attente, dans l'expectative, et vraiment s'ouvrir au Seigneur. Deuxième point, nous devons ensuite accueillir l'action du Saint-Esprit. Les disciples, avant de tout comprendre, ils ont vécu l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses. Il nous est dit dans Acte 2 qu'il y a eu ce bruit, ce souffle, ces langues de feu. Il y a eu cette mouvance dans la foule, les gens se sont déplacés pour voir et constater. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le monde visible. Nous voulons nous attendre aux actions surnaturelles du Saint-Esprit qui passent dans le monde matériel, afin que nous puissions voir, constater, ressentir des choses. Non pas que nous cherchions absolument ça, mais ça fait partie de la manifestation du Saint-Esprit. Car Jésus a dit que le Saint-Esprit, on ne peut pas le contrôler. Car il est comme le vent qui souffle où il veut. Je prends le texte de Jean 3, 8. On en entend le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Vent veut dire pneuma, qui veut dire esprit, c'est la même chose. Ruah en hébreu, pneuma en grec, c'est le vent, c'est le souffle, c'est l'Esprit. L'Esprit souffle où il veut, il fait comme il veut, et il désire que nous soyons ouverts à son influence. Ne nous fermons pas à l'action du Saint-Esprit, mais soyons réceptifs et ouverts, car le Saint-Esprit ne peut pas faire des choses mauvaises, mais il fait des choses bonnes. À nous d'apprendre à nous laisser entraîner, un peu comme un voilier qui est au bord du lac et le vent est là, mais tant que la voile n'est pas tendue, la voile n'est pas dressée, le vent n'a pas de prise et ne peut pas faire avancer l'embarcation. Ainsi, lorsque le voilier est parti poussé par le vent, eh bien c'est encore une fois l'image de cette intimité, de cette communion entre l'Esprit de Dieu et mon esprit. Le voile que j'ouvre veut dire « j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon esprit, je m'ouvre à toi Seigneur, afin que ta puissance m'emmène là dans ta volonté, m'emmène dans l'obéissance, m'emmène dans la crainte de Dieu, m'emmène à faire les œuvres du Père, m'emmène dans les œuvres préparées d'avance, m'emmène à agir, à travailler, à témoigner et à faire les œuvres du Seigneur. C'est lui et moi ensemble. » J'aimerais que vous compreniez ce matin que la vie de l'Esprit, ce n'est pas juste un point de doctrine, ce n'est pas juste un des quatre points qui sont importants et prioritaires ici dans notre message. La vie de l'Esprit, c'est au quotidien, du matin au soir et du soir au matin. Lorsque vous levez le matin, vous dites « Seigneur, je me réjouis de cette journée pour ce que tu vas encore faire. Je m'attends à ce que le vent souffle dans mes voiles. Et lorsque vous couchez la nuit, Seigneur, parle-moi encore cette nuit. Si tu as un rêve, si tu as une vision pour moi, je suis... » Encore une fois, le voile ouvert pour que le Saint-Esprit puisse encore m'utiliser. Ayons toujours notre voile levé afin que le Saint-Esprit puisse être comme ce vent qui souffle où il veut. Le Saint-Esprit va d'abord agir en créant une attraction. N'est-ce pas vrai que par votre curiosité, par votre désir, vous êtes attiré par quelque chose. Comme ces gens dans Acte 2, ils ont été attirés par ce vent. Ils sont tous venus parce qu'ils étaient curieux de savoir ce qui se passait. Quelque chose d'inexplicable m'a attiré un jour. Quelque chose, en ouvrant mon cœur, m'a attiré. J'étais attiré dans ce lieu de la réunion où les jeunes ont prié avec moi. Je m'en souviens. C'était il y a bien longtemps, mais c'est tellement vivant que je m'en souviens. J'étais attiré. J'aurais pu résister, mais c'était difficile. J'étais attiré par quelque chose que je ne peux expliquer. Il y a une attraction. Une soif spirituelle, un désir de voir Dieu agir. Quelque chose me met en mouvement. Et si vous êtes là ce matin, c'est que déjà Dieu vous a réveillé ce matin. Amen. Il n'a pas oublié de vous réveiller ce matin. Mais il y a plus que ça. Ce n'est pas seulement une habitude. Il y a au-delà de l'habitude, de la bonne habitude, il y a une attraction qui dit « Mon âme ». Vous n'êtes pas dit ça dans ces mots-là peut-être, mais « Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a besoin de Dieu. J'ai besoin d'aller... » à l'église, dans cette réunion, pour vivre la présence de Dieu avec mes frères et sœurs. J'ai besoin, je suis attiré par quelque chose. J'ai cette soif, ce désir et cette joie d'être attiré, de me laisser. Laissez-vous attirer par Dieu. Ensuite, le Saint-Esprit qui crée l'attraction, crée aussi la conviction. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra, nous dit Jésus dans Jean 16, verset 8. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Nous avons besoin d'ouvrir notre voix, d'ouvrir notre cœur pour nous laisser convaincre. Et c'est là le travail du Saint-Esprit. Et que ce matin, quelqu'un ne dise pas « Oh, mais je connais toutes choses, je sais déjà comment fonctionne la repentance, je sais tout ça. Depuis ma tendre enfance, je le sais, ou bien depuis mon catéchisme, je le sais. Depuis mon baptême, je sais comment ça marche, la repentance. Je me suis repenti de tout. » Mais j'aimerais vous dire le plus grave du chrétien, le plus grave problème du chrétien, c'est qu'une fois repenti, il croit qu'il n'a plus besoin de se repentir. Le Saint-Esprit veut me convaincre aujourd'hui des détails, de bien des choses qui ne plaisent pas à son esprit, qui ne plaisent pas à Dieu, qui ont besoin de changer. Et si tu t'approches de Dieu, peut-être que tu crois que tout est valable, tout est bien, tout est OK. Parce que tu t'approches de Dieu, on se sent de plus en plus petit, on se sent de plus en plus indigne et on voit de plus en plus de choses qui doivent encore être transformées pour ressembler davantage à Jésus. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit qui nous convainc. Laissez-vous convaincre par le Saint-Esprit ce matin. Acceptez. Ce n'est pas pour nous écraser, mais c'est pour nous permettre d'arriver à la source de purification qui est le sang de Jésus, pour nous relever, pour être libérés de toute culpabilité, et ensuite pour nous relever, laver et libres de toute accusation du diable. Parce que si nous refusons de passer par la case repentance, après avoir été convaincus, nous ne pouvons pas avancer. Nous sommes bloqués. Et le diable peut nous accuser quand il veut, parce qu'il connaît nos défauts. Il sait où ça ne va pas. Mais lorsque nous avons été convaincus, lorsque nous avons été libérés, lorsque nous nous sommes repentis, le sang de Jésus nous a couverts, nous a nettoyés, et nous nous relevons avec une force nouvelle, avec une pureté, une sainteté que le diable ne peut plus attaquer et à laquelle il ne peut pas résister. Alléluia. Ensuite, il crée cette conviction. Il apporte ce cadeau de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et je prie ce matin que plusieurs puissent encore recevoir l'amour de Dieu d'une nouvelle manière. Ce n'est pas dans le monde autour de nous, même parfois, même pas dans nos familles, que nous recevons la dimension de l'amour que nous désirons profondément, à laquelle nous aspirons profondément. Même au sein de nos bien-aimés, parfois, nous ne recevons pas la totalité de ce que nous souhaitons. Mais auprès de Jésus, par le Saint-Esprit, tu reçois la totalité que tu désires et dont tu as besoin. Alléluia. Le Saint-Esprit vient verser dans ton cœur l'amour qui guérit, l'amour qui te console, l'amour qui te donne la plénitude, l'amour qui te satisfait pleinement. C'est l'amour divin, c'est l'amour agapé, l'amour du Père. Il nous fait ressentir ces choses. Je ne dis pas qu'il faut être axé sur les sentiments, mais quand Jésus dit « vous recevrez une puissance », c'est quand même quelque chose qu'on ressent. Puissance, ce n'est pas une puissance virtuelle, c'est une puissance réelle. Une puissance qui nous permet de vivre et d'être vraiment embrasé, touché en profondeur et recevoir l'amour de Dieu. Et le texte de Romains 5,5 nous dit que c'est une preuve de l'espérance qui nous habite. Alléluia. Et peut-être que vous n'avez plus ressenti l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Vous pouvez simplement dire, mais juste en ce moment, dites « Seigneur, merci parce que même si je ne ressens pas comme je souhaiterais ressentir, je te dis d'avance merci par la foi que l'amour de Dieu a été versé aussi dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je n'ai pas été oublié. Dans la foi, je reçois cet amour encore une fois ce matin et je te dis merci. Seigneur, et si tu veux me le faire ressentir jusqu'à vibrer, jusqu'à trembler, jusqu'à pleurer, eh bien, Seigneur, que je ressente ou je ne ressente pas, c'est une réalité, c'est une réalité. Je ne doute pas ce matin que l'amour de Dieu a été aussi pour moi, est aussi pour moi. Le Saint-Esprit crée l'attraction, crée la conviction et il communique l'amour de Dieu. Il nous donne aussi le désir de prière, car il est dit dans Romains 8 encore, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et c'est selon Dieu qu'il intercède pour nous. Il met en nous ce désir de prier. Si tu as très peu le désir de prier, mon frère, ma sœur, tu as besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, au travers de toi, encore une fois, nous sommes partenaires. C'est lui et toi, ensemble, vous allez prier. C'est lui qui prie, mais il utilisera ta vie et ta bouche, ton intelligence et ton discernement. Il prendra le fardeau du Père et te le mettra sur toi pour que tu le pries. Il prendra le désir de Dieu et il le mettra sur toi, en toi, pour que tu le pries. La prière, c'est les richesses de Dieu qui viennent sur moi par le Saint-Esprit et qui, au travers de moi, sont réexpédié vers Dieu dans la prière. C'est un aller-retour, c'est une communication, une communion entre Dieu et nous qui veut dire, Seigneur, l'Esprit lui-même intercède au travers de nous et pour nous. Alléluia, quel miracle, quelle merveille. C'est lui aussi qui crée ce désir de la parole. Nous avons dit tout à l'heure que ça correspond avec le don de la parole et le don de l'Esprit, c'est la même fête. Il crée en nous l'amour pour la Bible. Si tu as perdu cet amour et cette faim de la parole, de comprendre la parole, demande un renouveau dans le Saint-Esprit. Et lorsque Pierre va prêcher à Pentecôte, il va prêcher Jésus, il va prendre le texte de Joël, il va l'exposer, et tout en l'exposant, il va en faire ressortir la richesse du Saint-Esprit, il va faire ressortir la richesse du texte, la richesse de la prophétie. La prophétie s'ouvre devant lui comme un livre qui se feuillette, comme cela, la révélation arrive, c'est ça que fait le Saint-Esprit. Et lorsqu'il va prêcher sur la résurrection et sur Jésus, eh bien les gens sont touchés. C'est ça, le Saint-Esprit, il prend la lettre, il l'applique à ma vie, il touche ma vie par cela, l'Esprit vivifie et cela me met en activité, cela me met en action. Cela rend la parole vivante. La parole devient une révélation parce que le Saint-Esprit l'interprète et l'applique à ma vie et à ma situation. S'il n'y a pas cela, la lettre reste une lettre morte. La lettre est morte, la lettre tue même, mais l'Esprit lui donne la vie. Encore une fois, avec mon cœur ouvert, cette soif de la Bible, eh bien, le Saint-Esprit vient, prend la parole et me l'applique et il l'inscrit avec des lettres de feu, avec des lettres qui sortent du texte et que je ne peux oublier. Je pense que chacun a pu faire cette expérience que certains textes ont été soulignés par le Saint-Esprit de manière magistrale. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il prend la parole et il souligne la parole, il crée l'ouverture à la parole. J'espère qu'il l'a fait récemment dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, eh bien, laissez-vous remplir et renouveler ce matin par le Saint-Esprit. Et ensuite, il crée aussi le côté miraculeux et surnaturel. Vous recevrez une puissance. Attendons-nous chaque jour à un miracle du Seigneur. Je veux voir l'action surnaturelle dans la vie de chacun d'entre vous. Alléluia! Je veux voir le miracle dans ta vie, Eric. Je veux voir le miracle dans votre vie à tous. Je veux voir l'action surnaturelle et je me dis toujours, Seigneur, je veux entendre des témoignages de guérison, de délivrance, car je sais que le Saint-Esprit va prendre des choses du royaume de Dieu et qu'il va l'appliquer dans le royaume visible et il va accomplir les choses miraculeuses. Ça fait partie du programme. Ce n'est pas réservé à quelques conférences spécifiques seulement. Ce l'est pour la vie normale du chrétien de tous les jours. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, il agira en vous. Et ensuite, il crée, je termine pour ce point-là ici, il crée le service, il crée le ministère. Le Saint-Esprit va prendre les ministères auprès de Jésus, il va les distribuer dans l'Église. Et il nous est dit dans 1 Corinthiens 12, 7, à chacun, il est bien dit, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Le don du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, les ministères sont donnés pour les autres, afin que tu sois équipé pour servir. Tout cela fait partie de son programme que j'ai mis sous ce point numéro 2, de voir, de nous attendre à l'action et aux manifestations du Saint-Esprit. Maintenant, j'arrive au troisième et dernier point. Notre besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit. Tout le livre des Actes nous parle de ce renouveau. Chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, vous verrez que le renouveau se passe à chaque fois que l'Église se retrouve, persévère dans la prière. Il se passe toujours un renouveau dans le Saint-Esprit lorsqu'elle prend le temps de la prière, parfois dans la persécution, parfois dans la détresse, dans les problèmes, parfois même dans les persécutions, lorsqu'il Paul ouvre des nouvelles villes, lorsqu'il a une attente et une prière commune qui s'élève vers Dieu, il y a toujours une action, il y a un renouvellement par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en lui-même est source. Ça, c'est toujours nouveau. Le Saint-Esprit ne peut pas vieillir. Il ne peut pas s'user, il ne peut pas diminuer en puissance. Sa puissance est toujours au maximum. La source coule toujours d'une manière aussi abondante. À nous d'être dedans. Nous avons donc besoin de vivre ce renouvellement et je vais terminer en rappelant cette parabole de Matthieu 25, car en nous attendant à l'action du Saint-Esprit, à la promesse de Dieu, nous disons « Seigneur, j'obéis à ce que tu demandes et je comprends que j'en ai besoin et j'ai cette soif pour moi. Seigneur, je veux voir les manifestations parce que j'ai besoin que le monde soit en contact avec la puissance de Dieu, que je sois en contact avec la puissance de Dieu, que je le vive au quotidien. » Mais le troisième point, dans ce renouveau nécessaire et qui transparaît clairement dans ce texte de Matthieu 25 avec les vierges sages, les vierges folles, cela veut dire que j'ai besoin d'être et de rester rempli du Saint-Esprit pour attendre la rencontre avec l'Époux, le Seigneur. Les autres points concernent ma propre vie et concernent le service, concernent le témoignage, concernent un fruit, un résultat dans ma vie et dans la vie des autres, une action du Saint-Esprit dans le monde. Mais ici, j'aimerais terminer par ce point qui pour moi est capital, c'est que le Saint-Esprit est venu pour préparer l'épouse. Est-ce que quelqu'un a entendu cela ce matin ? Le Saint-Esprit est là pour préparer, avant de servir, avant que nous nous sentions remplis et que nous sentions un tas de choses, nous sommes préparés par le Saint-Esprit pour être destinés à l'unique, à celui qui a tout fait pour nous, à celui qui nous aime, qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, à celui qui nous a tant aimés, qui nous a sauvés, qui a payé le prix à la croix du calvaire. Nous sommes destinés à lui appartenir pour le temps et l'éternité, à être purifiés, sanctifiés pour lui. Et le Saint-Esprit va tout faire pour que cette œuvre-là, c'est une œuvre mondiale, c'est une œuvre cosmique, c'est une œuvre planétaire, cette œuvre réussisse. C'est pourquoi il te prépare, il me prépare pour le jour de la rencontre des noces de l'agneau. Alléluia ! Alléluia ! C'est pourquoi ce texte est important. Il nous est dit que l'époux est arrivé au milieu de la nuit lorsque la nuit était la plus sombre. Il nous est aussi dit quelque chose d'étonnant, c'est que toutes les vierges se sont endormies, les folles et les sages. Toutes étaient prêtes à un moment donné. C'était toutes préparées, toutes réjouies. Mais à un moment donné, il y a une vigilance qui n'était plus là. C'est pourquoi la parole de Dieu dit « Veillez donc et priez ». Par exemple, il est dit dans Luc 21 « Prenez garde à vous-même ». Ce matin, le Saint-Esprit te dit « Prends garde à toi-même, veille sur toi-même ». Pour voir si ton enthousiasme du départ, ton feu du départ, ta motivation du départ, ton zèle, ton désir pour la sainteté, ton désir d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, est-ce que ce désir, après une année, deux années, 10 ans, 20 ans, 60 ans, est-il toujours intact ? Est-ce que ta lampe brûle encore ? Et si la parole de Dieu dit que même les vierges sages se sont endormies, c'est que ça peut nous arriver. Ça peut tout à fait nous arriver. Par les épreuves, les coups reçus, les déceptions dans l'Église, les déceptions dans le milieu chrétien, les attentes qui n'ont jamais été satisfaites, trop de souffrances. Puis Satan en remet une couche en te disant, tu vois que ça ne change jamais, tu vois que c'est toujours pareil, tu vois que Dieu ne t'exauce pas, tu vois que tu ne ressens rien, les autres sentent, mais toi tu es toujours à côté. Et tu es pris dans une fatigue spirituelle où tout devient difficile, de te lever le matin pour prier un peu. La lecture biblique ne te parle plus. Les réunions, c'est trop compliqué pour se déplacer, je vais trop fatigué. Les soucis, le texte nous dit encore dans Luc 21, « Prenez garde de crainte que vous ne soyez apesantis par les excès. » Ici, il est question du manger et du boire, mais il n'y a pas que ça. Les excès dans beaucoup de choses, trop de choses qui prennent et qui mangent mon énergie. Il ne me reste plus rien pour mon âme et pour mon esprit. Il nous est dit que ces choses s'apesantissent sur vous et qui sont les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Israël ne pouvait plus entendre, lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, ils ne pouvaient plus entendre la voix de Dieu parce qu'ils étaient écrasés par le travail. Ils étaient incapables d'entendre. Ils n'arrivaient pas parce qu'ils étaient juste à la limite de la survie, donc ils n'avaient pas de place dans leur cœur pour autre chose. C'est pourquoi il nous a dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez de la force pour échapper à ce qui vient. » Le Saint-Esprit est une puissance qui nous donne des forces. Et ces gens qui s'endorment ne sont plus conscients du temps dans lequel ils vivent. Ils sont déphasés par rapport aux réalités spirituelles. Ils ne savent plus où on en est à l'horloge de Dieu. On vit comme du temps de Noé, on mariait nos enfants, on mangeait, on buvait, et on n'était pas conscient du temps dans lequel on était en réalité. Ils étaient dans un sommeil spirituel. Toutes ces vierges étaient dans un sommeil déphasé. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont attristé le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, si tu ne souffres plus de ce que tu n'entends pas la voix de Dieu, si tu es indifférent, que tu n'as plus de compassion, si ça ne te dit rien, que tu ne témoignes plus depuis des semaines, ça ne te parle pas, la Bible, et puis la laisser fermer, ça ne change rien dans ta vie. Je te dis, tu es en train de dormir. Ton âme est endormie. Si tu as perdu cette attraction intérieure qui te pousse par le Saint-Esprit dans les bras de Dieu, dans la présence de Dieu, si tu n'as plus ça, il y a un problème. Si tu n'arrives plus à pleurer pour ta famille qui n'est pas convertie ou pour ton pays, qui s'éloigne de Dieu à toute vitesse et qui balaye les valeurs chrétiennes, si ça ne te touche pas, il y a un problème. Si tu as perdu peu à peu ces choses auxquelles tu tenais tellement, ce zèle, cet amour pour Dieu, ces priorités que tu avais autrefois, où tu osais, tu allais, tu investissais ton temps, et que tu aimais Dieu de tout ton cœur, toute ta force, et que maintenant, ce n'est plus, tu dis, le temps a passé, c'était mon zèle de jeunesse, maintenant c'est différent. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que si tu t'endors, il y a d'autres forces qui se lèvent. Les gens, les commentateurs se demandent, et même les chefs d'État en Europe se disent, mais où est l'Église ? Pourquoi l'islam a carte blanche dans nos pays ? Pourquoi est-ce qu'ils ont jusqu'aux premières places du gouvernement maintenant ? Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont forts, mais c'est parce que l'Église est faible. Frères et sœurs, je vous parle à ce jour de Pentecôte, dans ce dernier point, que nous avons besoin de retrouver un nouveau feu, un nouveau courage, une nouvelle puissance, non pas pour nous, j'en ai parlé suffisamment, mais pour d'autres choses, afin que nous ne soyons pas comme ces vierges endormies qui n'étaient plus conscientes de tout cela dont je viens de parler, mais que nous ayons ce cri de l'époux qui dit « J'arrive !» et que nous puissions dire ce matin, et c'est le mot de conclusion, que nous puissions d'abord ne pas dire « Nos lampes s'éteignent !» Nous n'avons plus d'huile. C'était trop tard pour les vierges folles. Mais que nous puissions dire ce matin, au nom de Jésus, ma lampe ne s'éteindra pas au milieu de la nuit. Au nom de Jésus, j'aurai toujours de l'huile et des ressources. Au nom de Jésus, j'ai aujourd'hui accès à la source secrète. Et je vais présenter mon vase, mon corps et mon âme, mon esprit, afin que l'huile de Dieu coule, comme nous l'avons entendu la semaine passée. Je présente des vases au Seigneur. J'ai une soif grandissante et Seigneur, je veux que cette huile coule et que je sois dans l'attente de l'époux qui vient. Et que l'Église puisse ainsi tenir haut son drapeau et sa lampe pour briller dans un lieu obscur. Et que l'Église soit forte dans le nom de Jésus. Je termine par le verset du Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 4. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Ce matin, je ne sortirai pas avec un cœur desséché. Je ne sortirai pas avec ma lampe éteinte, ni avec un cœur vide. Mais dans le Cantique des Cantiques, il est dit, « Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. » On voit cette détresse de cette bien-aimée qui cherche. Mais elle est sur sa couche, elle est en train de dormir. Elle n'a pas tout mis en mouvement pour chercher. Ensuite, il a dit, je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues, sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Ce n'est pas facile de le chercher. Il faut se mettre en mouvement. On dirait qu'il y a un jeu de cache-cache qui se passe. Je l'ai cherché et je ne l'ai toujours pas trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? À peine je les avais dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Alléluia ! Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché.